France Inter. Les admirations littéraires
de Félix Moati. Aujourd'hui, je vais vous lire une pièce de Bernard-Marie Coltès, célèbre dramaturge français. L'une de ses pièces, alors je tiens à faire une dédicace à ma prof de français en première, puisque c'est elle qui me l'a fait découvrir. C'est une pièce absolument splendide qui s'appelle « Dans la solitude des champs de coton », titre énigmatique. On découvrira la raison de ce titre dans l'un des passages que je vais vous lire, donc pas d'inquiétude. C'est un dialogue entre un dealer et son client. J'ai l'impression, moi, d'assister, alors avec la langue si belle et si musicale et si gracieuse de Bernard-Marie Coltès, une langue très mystérieuse et hypnotique, je trouve aussi. Et c'est construit comme une joute verbale. On a l'impression que ce dealer et ce client qui se rencontrent dans une heure qui n'est pas donnée, dans un lieu qui n'est pas donné, se mène une guerre des mots. Et Bernard-Marie Coltès, en ouverture du texte, nous offre une définition du deal. Alors je vous la lis. Un deal est une transaction commerciale portant sur des valeurs prohibées ou strictement contrôlées et qui se conclut dans des espaces neutres, indéfinis et non prévus à cet usage entre pourvoyeur et quémandeur par entente tacite, signe conventionnel ou conversation à double sens dans le but de contourner les risques de trahison et d'escroquerie qu'une telle opération implique. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, indépendamment des heures d'ouverture réglementaire des lieux de commerce homologués, mais plutôt aux heures de fermeture de ceux-ci. Donc ça, c'est la première page du texte, la définition que Bernard-Marie Coltès propose du deal, et qui nous plonge tout de suite dans un monde de mystères et d'énigmes, puisque l'action qui va se dérouler a donc lieu aux heures de fermeture des lieux de commerce homologués. On imagine donc que le deal, c'est donc une esquive par rapport aux yeux de la loi, et que ça se fait quand les lumières officielles tombent. On peut aisément imaginer qu'il fait nuit. Et je trouve assez bouleversant parce que on a face à face quelqu'un qui désire, le client, et quelqu'un qui possède, le dealer. Et c'est vraiment une pièce qui réfléchit là-dessus, sur les rapports marchands qui régissent les rapports humains. Et je vous propose qu'on commence par... c'est le dealer qui ouvre et qui s'adresse donc au client. Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Et cette chose, moi, je peux vous la fournir. Car si je suis à cette place depuis plus longtemps que vous, et pour plus longtemps que vous, et que même cette heure qui est celle des rapports sauvages entre les hommes et les animaux ne m'en chasse pas, c'est que j'ai ce qu'il faut pour satisfaire le désir qui passe devant moi. Et c'est comme un poids dont il faut que je me débarrasse sur quiconque, homme ou animal, qui passe devant moi. C'est pourquoi je m'approche de vous, malgré l'heure qui est celle où d'ordinaire l'homme et l'animal se jettent sauvagement l'un sur l'autre, je m'approche moi de vous, les mains ouvertes et les paumes tournées vers vous, avec l'humilité de celui qui propose, face à celui qui achète, avec l'humilité de celui qui possède, face à celui qui désire. Et je vois votre désir comme on voit une lumière qui s'allume, à une fenêtre tout en haut d'un immeuble, dans le crépuscule. Je m'approche de vous comme le crépuscule approche cette première lumière, doucement, respectueusement, presque affectueusement, laissant tout en bas dans la rue, l'animal et l'homme tirer sur leur laisse et se montrer sauvagement les dents. Il y a une phrase qui me saisit, moi, c'est « Je m'approche, moi, de vous, avec l'humilité de celui qui propose face à celui qui achète, avec l'humilité de celui qui possède face à celui qui désire. » Et c'est comme s'il exposait tout de suite, Coltès, ce qui va être à l'œuvre dans toute cette pièce, à savoir cette confrontation entre celui qui possède et celui qui n'a pas, celui qui désire, le désir vu comme manque, comme béance, et comme et forcément celui qui désire demande. Il y a un état de détresse du désir. Le dealer, lui, possède. Et possède potentiellement ce que désire le client. Voilà, je trouve ça très beau. Là, c'est le client qui parle. Je fais des sautes dans le texte, c'est pas la réponse immédiate au dealer, mais c'est le client qui parle. Mon désir, s'il en est un, si je vous l'exprimais, brûlerait votre visage, vous ferait retirer les mains avec un cri, et vous vous enfuiriez dans l'obscurité comme un chien qui court si vite qu'on n'en aperçoit pas la queue. Mais non, le trouble de ce lieu et de cette heure me fait oublier si j'ai jamais eu quelques désirs que je pourrais me rappeler. Non, je n'en ai pas plus que d'offres à vous faire. Et il va bien falloir que vous fassiez un écart pour que je n'en ai pas à faire, que vous déménagiez de l'axe que je suivais, que vous vous annuliez. Car cette lumière là-haut, en haut de l'immeuble, dont s'approche l'obscurité, continue imperturbablement de briller. Elle troue cette obscurité comme une allumette enflammée, troue le chiffon qui prétend l'étouffer. Voilà, c'est pour vous donner un peu une idée de ce que peut répondre le client au dealer. Et ce que je trouve très étonnant, c'est à quel point chacun des deux protagonistes, le dealer comme le client, essaye de... Enfin, ça, c'est vraiment, on dirait un match de boxe. On dirait qu'ils se répondent par des mots. Alors, c'est une écriture très belle et très sophistiquée, très, voilà, comme je disais tout à l'heure, très hypnotisante. Mais il y a une violence aussi qui s'en dégage. Et ils se répondent comme on se balance des coups. Et je trouve ça assez saisissant.
Sans cesse, c'est logique. Dis l'opium du peuple, c'est l'opium. Sans cesse, c'est logique. Dis l'opium du peuple, c'est l'opium. Carl se fout de toi. Regarde ce fou, ok c'est l'ex moi et vise les exploits car que fou. Soir de foutre rare qui fesse toi. Au KIS, ok JL, je vais faire mieux. Si tu me laisses boire, je vais me fermer si je reste là. L'espoir éternel, j'ai mis le cadre sur le tissu. Tu seras substitut comme Vicage, ce rap, je m'y cache, tu me situes. Je reprends les émotions, les 10 cash, pêche des petits cachets pour vivre ma vie cachée. Stéphanie peut pas me dicapter. C'est le syndicat sous, tu vas nous dicap, shell, c'est viral tel kit kazou. Old school comme PNC, le bazooka au secours, je suis spécial. Cyrix c'est le courage, je rêve d'être rarement sous-titre. Ça rappe et coura sans sous-titre. Opella sera, je suis venu comme tel. En chasta, c'est le dog thème. Fait qu'elle veut qu'on voyage sur le golden fait. Ok, 50 pétards, 60 la tasse et 40 la T. Encore éclaté, grosse def, le check c'est 40 la TN. Quelque part entre la PS et Mos Def. Je pourrais me rater, le cœur est hal, le bec est haut de part. Je crame mes CD comme un CD graph en haut def. Le rap c'est pas beaucoup plus simple que mes autres tafs. J'ai surfé sur les pentes, je mets un sourire sur mes frères, mais je fais souffrir les plantes. Je convoyage sur le golden fake. J'ai l'impression que j'aimerais jamais personne. Ça me rappelle un radeau devant The Rock. Je me sentais hyper seul, comme dans un radeau ridant sur l'océan de Rome. Je détecte, putain, j'écris un texte, c'était. Je roule en genre, je suis venu comme tel. C'est ma chasta, je suis le totem. Fuck, elle veut qu'on voyage sur le golden fang. Elle se déclare carte sur table, incapable d'aimer. 15 au casque crevé chaque semaine, mais sans balai, car survie, elle a 4 grammes sur elle. Qu'une vie peut édulcorer, qu'une corée, qu'un cœur, qu'un saurait parcourir. Parfois je parie pas si triste de laisser le Pacifique. Pastador, Prachakon, prêt pour le sacrifice. Ville l'état logique, que le cancer est à nous avant la mort. Je voulais causer d'amour, vous alliez être allergique. Je vois à l'air libre, limite j'avais l'air mieux. Re se marier à la mairie, je m'attachais à l'Amérique. Enfoncé dans mes cons, coincé dans ses yeux. Défoncé ou pensant à la sentence que ce bâtard mérite. Quand elle parle, le temps para. Quand elle va mal, elle part à l'ouest. S'élève mon lamine et je la mets dans l'embarras en parallèle. Parfois elle part à l'aube et moi je bois le Bacardi. Elle ne veut pas de moi, pardi, j'ai dû la décevoir. Ma chasta c'est le dog ten fuck. Elle veut qu'on voyage sur le golden fang. Je crois que je suis love qu'elle seule. Ma chasta c'est le dog ten fuck. Elle veut qu'on voyage sur le golden fang.
Les admirations littéraires
de Félix Moati
sur France Inter.
Alors aujourd'hui, mes admirations littéraires se portent sur Bernard-Marie Coltès et particulièrement sur l'une de ses pièces qui s'appelle Dans la solitude des champs de coton, qui est une pièce magnifique, à l'écriture très mystérieuse, énigmatique, presque hypnotisante. C'est un dialogue entre un dealer et un client qui se croisent dans un espace qui n'est jamais nommé, à une heure qui n'est jamais dite. Et c'est une joute verbale entre ce dealer et ce client, composée de grandes partitions pour chacun d'eux. Vous avez raison de penser que je ne descends de nulle part et que je n'ai nulle intention de monter. Mais vous auriez tort de croire que j'en éprouve du regret. J'évite les ascenseurs comme un chien évite l'eau. Non pas qu'ils refusent de m'ouvrir leurs portes, ni que je répugne à m'y enfermer. Mais les ascenseurs en mouvement me chatouillent, et j'y perds ma dignité. Et si j'aime être chatouillé, j'aime pouvoir ne plus l'être dès que ma dignité l'exige. Il en est des ascenseurs comme de certaines drogues. Trop d'usage vous rend flottant, jamais monté, jamais descendu, prenant des lignes courbes pour des lignes droites, et glaçant le feu en son centre. Pourtant, depuis le temps que je suis à cette place, je sais reconnaître les flammes qui, de loin, derrière les vitres, semblent glacées comme des crépuscules d'hiver, mais dont il suffit de s'approcher, doucement, peut-être affectueusement, pour se souvenir qu'il n'est point de lueur définitivement froide. Et mon but n'est pas de vous éteindre, mais de vous abriter du vent, et de sécher l'humidité de l'heure à la chaleur de cette flamme. Car quoi que vous en disiez, la ligne sur laquelle vous marchiez, de droite peut-être qu'elle était, est devenue tordue lorsque vous m'avez aperçu. Et j'ai saisi le moment précis où vous m'avez aperçu par le moment précis où votre chemin devint courbe. Et non pas courbe pour vous éloigner de moi, mais courbe pour venir à moi. Sinon nous ne nous serions jamais rencontrés, mais vous vous seriez éloigné de moi davantage, car vous marchiez à la vitesse de celui qui se déplace d'un point à un autre. Et je ne vous aurais jamais rattrapé, car je ne me déplace que lentement, tranquillement, presque immobilement, de la démarche de celui qui ne va pas d'un point à un autre, mais qui, à une place invariable, guette celui qui passe devant lui et attend qu'il modifie légèrement son parcours. Et si je dis que vous fîtes une courbe, et que sans doute vous allez prétendre que c'était un écart pour m'éviter, et que j'affirmerai en réponse que ce fut un mouvement pour vous rapprocher, sans doute est-ce parce qu'en fin de compte, vous n'avez point dévié, que toute ligne droite n'existe que relativement à un plan, que nous bougeons selon deux plans distincts, et qu'en toute fin de compte n'existe que le fait que vous m'avez regardé, et que j'ai intercepté ce regard ou l'inverse, et que partant, d'absolue qu'elle était, la ligne sur laquelle vous vous déplaciez est devenue relative et complexe, ni droite, ni courbe, mais fatale. Le dealer vient de s'adresser au client, et le client répond au dealer, et tout de suite on est dans une attitude défensive. Je ne marche pas en un certain endroit à une certaine heure. Je marche, tout court, allant d'un point à un autre, pour affaires privées qui se traitent en ces points, et non pas en parcours. Je ne connais aucun crépuscule, ni aucune sorte de désir, et je veux ignorer les accidents de mon parcours. J'allais de cette fenêtre éclairée, derrière moi, là-haut, à cette autre fenêtre éclairée, là-bas, devant moi, selon une ligne bien droite qui passe à travers vous, parce que vous, vous y êtes délibérément placé. Or, il n'existe aucun moyen qui permette à qui se rend d'une hauteur à une autre hauteur d'éviter de descendre pour devoir remonter ensuite, avec l'absurdité de deux mouvements qui s'annulent et le risque, entre les deux, d'écraser à chaque pas les déchets jetés par les fenêtres. Plus on habite haut, plus l'espace est sain, mais plus la chute est dure. Et lorsque l'ascenseur vous a déposé en bas, il vous condamne à marcher au milieu de tout ce dont on n'a pas voulu là-haut, au milieu d'un tas de souvenirs pourrissants, comme au restaurant, lorsqu'un garçon vous fait la note et énumère, à vos oreilles écœurées, tous les plats que vous digérez déjà depuis longtemps. Il aurait d'ailleurs fallu que l'obscurité fût plus épaisse encore, et que je ne puisse rien apercevoir de votre visage. Alors j'aurais peut-être pu me tromper sur la légitimité de votre présence et de l'écart que vous faisiez pour vous placer sur mon chemin, et à mon tour faire un écart qui s'accommoda au vôtre. Mais quelle obscurité serait assez épaisse pour vous faire paraître moins obscur qu'elle. Il n'est pas de nuit sans lune, qui ne paraisse être midi si vous vous y promenez. Et ce midi-là me montre assez que ce n'est pas le hasard des ascenseurs qui vous a placé ici, mais une imprescriptible loi de pesanteur qui vous est propre, que vous portez, visible, sur les épaules comme un sac, et qui vous attache à cette heure, en ce lieu d'où vous évaluez en soupirant la hauteur des immeubles. Quant à ce que je désire, s'il était quelque désir dont je puisse me souvenir ici, dans l'obscurité du crépuscule, au milieu de grognements d'animaux dont on n'aperçoit même pas la queue, outre ce très certain désir que j'ai de vous voir laisser tomber l'humilité et que vous ne me fassiez pas cadeau de l'arrogance. Car si j'ai quelques faiblesses pour l'arrogance, je hais l'humilité, chez moi et chez les autres. Et cet échange me déplaît. Ce que je désirerais, vous ne l'auriez certainement pas. Là, c'est encore le client. Or, sachez que ce qui me répugne le plus au monde, plus même que l'intention illicite, plus que l'activité illicite elle-même, c'est le regard de celui qui vous présume plein d'intentions illicites et familier d'en avoir. Non pas seulement à cause de ce regard lui-même, trouble pourtant au point de rendre trouble un torrent de montagne, et votre regard à vous ferait remonter la boue au fond d'un verre d'eau, mais parce que du seul poids de ce regard sur moi, la virginité qui est en moi se sent soudain violée, l'innocence coupable et la ligne droite censée me mener d'un point lumineux à un autre point lumineux, à cause de vous devient crochue et labyrinthe obscur dans l'obscur territoire où je me suis perdu. Donc là, le client s'offusque du regard que le dealer pose sur lui, qui est un regard qu'il suspecte d'être suspicieux. Et le client refuse ce regard, le trouve très violent. Et en effet, c'est un peu la honte que peut éprouver la personne qui désire face à quelqu'un qui n'a pas de désir en retour. Et je trouve que c'est admirablement écrit sur cette sensation qu'on a tous pu vivre à des moments donnés de nos vies, quand on vit des désirs qui ne sont pas réciproques, cette honte qu'on peut distinguer dans le regard de l'autre. Quand on est client face à un dealer, il s'agit plutôt de besoin que de désir. Néanmoins, si on lit bien Coltès, le mot désir revient tout le temps dans ce texte. Le mot désir revient tout le temps. Donc ça n'a pas l'air d'être une nécessité ou un besoin. Ça a l'air vraiment d'être un désir au sens du manque, au sens de qu'est-ce qui pourrait combler ce vide qui est en moi, ce vide qui est au centre de mon être. Alors là, on va repartir sur le dealer. C'est parce que je veux être commerçant et non brut, mais vrai commerçant, que je ne vous dis pas ce que je possède et que je vous propose, car je ne veux pas endurer de refus, qui est la chose au monde que tout commerçant redoute le plus, parce que c'est une arme dont il ne dispose pas lui-même. Ainsi, moi, je n'ai jamais appris à dire non et ne veux point l'apprendre. Mais toutes les sortes de oui, je les sais. Oui, attendez un peu, attendez beaucoup, attendez avec moi une éternité là. Oui, je l'ai, je l'aurai, je l'avais et je l'aurai à nouveau. Je ne l'ai jamais eu, mais je l'aurai pour vous. Et que l'on vienne me dire, mettons qu'on ait un désir, qu'on l'avoue, et que vous n'ayez rien pour le satisfaire. Je dirais, j'ai ce qu'il faut pour le satisfaire. Si l'on me dit, imaginez pourtant que vous ne l'ayez pas, même en imaginant, je l'ai toujours. Et qu'on me dise, mettons qu'en fin de compte, ce désir soit tel qu'absolument vous ne vouliez même pas avoir l'idée de ce qu'il faut pour le satisfaire. Eh bien, même en ne le voulant pas, malgré cela, j'ai ce qu'il faut, quand même. Alors là, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, qui est une sorte de retournement du rapport de la dynamique, c'est-à-dire que depuis le début du texte, on est face à la demande du client face au dealer, face à le désir, le manque du client face au dealer, et sauf que là, le dealer fait état de sa faiblesse à lui. Sa faiblesse à lui, c'est de ne pas supporter un refus. Parce qu'en effet, le dealer, qui se vit comme commerçant, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on achète son produit. Donc en fait, sa véritable faille, sa faiblesse, c'est de pouvoir endurer un refus. Et ça, c'est très beau, je trouve. Et c'est ce qu'il dit dans cette logorée qui ne manque pas d'humour, je trouve, quand il dit que, quoi que vous me demandiez, je vous le trouverai. Now, make it into a big thing.
get lost in me. I know it is, I know we could. I guess we surely were. Let's pretend it's not, it doesn't mean a thing. Let's not blow it out of our sand, as though it meant so much. It's always thought about for weeks. Not every time your lips meet mine, I think of her. But when a hand reach out, I think of you.
Les admirations littéraires
de Félix Moati
sur France Inter.
Je suis en train de vous lire Dans la solitude des champs de coton de Bernard Marie Coltès. C'est une pièce qui date de 1985. Ça fait partie du genre du théâtre littéraire. Et c'est un long dialogue entre un dealer et un client, donc entre quelqu'un qui possède et quelqu'un qui demande. Le texte est très court, hein, il fait 60 pages. C'est une pièce que je n'ai jamais jouée, malheureusement. Mais je me souviens qu'au lycée, quand j'avais étudié cette pièce avec ma prof de français, elle nous avait montré la captation d'une mise en scène de Patrice Chéreau. Et c'était délirant. C'était d'une beauté fulgurante.
Quel plaisir tirez-vous du risque d'être abusé ? Je ne suis pas venu en ce lieu pour trouver de la douceur. La douceur fait le détail. Elle attaque par morceaux, elle dépèse les forces, comme un cadavre en salle de médecine. J'ai besoin de mon intégrité. La malveillance, du moins, me gardera entier. Fâchez-vous. Sinon, où puiserai-je ma force? Fâchez-vous. Nous resterons plus proches de nos affaires et nous serons sûrs que nous traitons tous deux la même affaire. Car si je comprends d'où je tire mon plaisir, je ne comprends pas d'où vous tirez le vôtre.
Patrice Chéreau et Pascal Grégory.
Dans la vie, il y a toujours un client et un dealer, oui. C'est sûr, dans n'importe quelle situation. Oui. Mais en revanche, pour parler de la pièce, Patrice qui joue le dealer, moi je joue le client. Dans le fond, pourquoi le dealer? Parce que c'est le premier qui rentre en scène, donc c'est forcément celui qui propose. Et donc il s'est défini comme tel, comme dealer. Mais dans le fond, moi aussi, le client est un peu dealer aussi. Et le dealer est un peu client aussi.
Je suis l'homme d'un seul rôle, le dealer de la solitude des champs de coton. D'ailleurs, en 14 ans, je n'en ai pas joué d'autres au théâtre.
Bon, il se trouve que la pièce de Coltès, en plus, fait appel à des choses très profondes, très violentes en soi, dans le souvenir de l'être humain, enfin de nous-mêmes, qu'il faut aller rechercher, et qui fait qu'il y a matière à renouvellement sans arrêt.
Et ce qui est troublant, c'est de voir même qu'au milieu des grèves, au milieu de la guerre civile qu'on est en train de vivre, les gens viennent et viennent s'abreuver quand même à cette parole, et que visiblement, pendant 1h20 tous les soirs, et là, je dis ce que je vois, moi, comme acteur au centre du spectacle avec Pascal, on arrive à leur restituer une parole qui les fascine. Donc, à un moment donné, c'est le genre de spectacle où on se dit, ça redonne confiance dans le théâtre.
Je vous lis cette phrase juste pour le plaisir de l'oreille, et parce que je trouve ça admirablement intelligent. C'est pourquoi brutes et demoiselles se craignent et se méfient tout autant, parce qu'on n'inflige que les souffrances que l'on peut soi-même supporter, et que l'on ne craint que les souffrances qu'on n'est pas soi-même capable d'infliger. C'est le dealer qui la prononce. Et juste après cette phrase, voilà ce qu'il dit. Alors ne me refusez pas de me dire l'objet, je vous en prie, de votre fièvre, de votre regard sur moi, la raison de me la dire. Et s'il s'agit de ne point blesser votre dignité, eh bien dites-la comme on l'a dit à un arbre, ou face au mur d'une prison, ou dans la solitude d'un champ de coton, dans lequel on se promène, nu, la nuit, de me la dire sans même me regarder. Car la vraie seule cruauté de cette heure du crépuscule, où nous nous tenons tous les deux, n'est pas qu'un homme blesse l'autre, ou le mutile, ou le torture, ou lui arrache les membres et la tête, ou même le fasse pleurer. La vraie et terrible cruauté est celle de l'homme ou de l'animal qui rend l'homme ou l'animal inachevé, qui l'interrompt comme des points de suspension au milieu d'une phrase, qui se détourne de lui après l'avoir regardé, qui fait de l'animal ou de l'homme une erreur du regard, une erreur du jugement, une erreur comme une lettre qu'on a commencée et qu'on froisse brutalement, juste après avoir écrit la date. Alors, ce passage, bon, au-delà d'être magnifique, il nous dit le titre de la pièce, « Dans la solitude du champ de coton », parce que cette honte qu'on confesse, la honte de son désir, de son manque, que l'on confesse, eh bien, le dealer dit au client de la confesser comme dans la solitude d'un champ de coton. Ce qui est intéressant, c'est qu'un champ de coton, ça fait écho au champ d'esclavage. Donc ça veut dire qu'on est aussi esclave de nos désirs, aussi esclave de nos manques, et c'est quelque chose que je trouve très beau, la solitude et la dépendance. Donc voilà de quoi parle cette pièce, au fond. Là, c'est le client qui parle. Allons-y. Je veux être zéro. Je redoute la cordialité. Je n'ai pas la vocation du cousinage. Et plus que celle des coups, je crains la violence de la camaraderie. Soyons deux zéros bien ronds, impénétrables l'un à l'autre, provisoirement juxtaposés, et qui roulent, chacun dans sa direction. Là, que nous sommes seuls, dans l'infinie solitude de cette heure et de ce lieu, qui ne sont ni une heure, ni un lieu définissable, parce qu'il n'est pas de raison pour que je vous y rencontre, ni de raison pour que vous m'y croisiez, ni de raison pour la cordialité, ni de chiffres raisonnables pour nous précéder, et qui nous donnent un sens. Soyons de simples, solitaires et orgueilleux zéros. À ça, le dealer répond, « Mais maintenant, il est trop tard. Le compte est entamé, et il faudra bien qu'il soit apuré. Il est juste de voler à qui ne veut pas céder et garde jalousement dans ses coffres pour son plaisir solitaire. Mais il est grossier de voler lorsque tout est à vendre et tout à acheter. Et s'il est provisoirement convenable de devoir à quelqu'un, ce qui n'est qu'un juste délai accordé, il est obscène de donner et obscène d'accepter que l'on vous donne gratuitement. Nous nous sommes trouvés ici pour le commerce et non pour la bataille. Il ne serait donc pas juste qu'il y ait un perdant et un gagnant. Vous ne partirez pas comme un voleur les poches pleines. Vous oubliez le chien qui garde la rue et qui vous mordra le cul. Puisque vous êtes venu ici, au milieu de l'hostilité des hommes et des animaux en colère, pour ne rien chercher de tangible, puisque vous voulez être meurtri pour je ne sais quelle obscure raison, il va vous falloir, avant de tourner le dos, payer et vider vos poches, afin de ne rien se devoir et ne rien s'être donné. Méfiez-vous du marchand, le marchand que l'on vole, est plus jaloux que le propriétaire que l'on pille. Méfiez-vous du marchand. Son discours a l'apparence du respect et de la douceur, l'apparence de l'humilité, l'apparence de l'amour, l'apparence seulement. Le client. Qu'est-ce donc que vous avez perdu et que je n'ai pas gagné? Car j'ai beau fouiller ma mémoire, je n'ai rien gagné, moi. Je veux bien payer le prix des choses, mais je ne paie pas le vent, l'obscurité, le rien qui est entre nous. Si vous avez perdu quelque chose, si votre fortune est plus légère après m'avoir rencontré qu'elle ne l'était avant, où donc est passé ce qui nous manque à tous deux? Montrez-moi. Non, je n'ai joui de rien. Non, je ne paierai rien. Et là, on arrive vers la fin, donc je veux bien continuer à lire, mais ce serait vous gâcher la fin, quoi. About the things that I forgot to do.
risk another these days. Just that I've been losing so long. I stopped my dreaming. I won't do too much scheming these days.
Admiration littéraire
de Félix Moati
sur France Inter.
Ce qui m'a bouleversé quand j'ai découvert ce texte de Bernard Marie Coltès, donc j'avais 17 ans, ouais, peut-être 16 ans et demi, 17 ans. Je m'intéressais pas encore au théâtre, je voulais pas encore être comédien ou acteur, donc il y avait pas de j'avais pas un rapport intéressé au texte, j'avais vraiment un rapport de lecteur. Et ce qui m'a tout de suite bouleversé, c'est cette langue très lancinante. Aussi, il y avait en fait ce que ça dit des rapports humains, comme des rapports marchands, et ça m'avait beaucoup le fait que le texte prenne en charge cette violence des rapports avec une langue aussi poétique, ça m'avait vraiment scié d'un point de vue littéraire. Et je trouve aussi qu'il y a quelque chose, un point de vue sur la notion même de désir que je trouve très beau, parce que ce que confesse la personne qui manque face à l'arrogance de la personne qui possède, c'est quelque chose qui résonnait beaucoup chez le jeune homme que j'étais en train de devenir et qui était en manque permanent. Voilà. Et je trouve que ça, c'est vraiment très beau. Et puis, il y a tout un imaginaire qui va de pair avec cette pièce. Je trouve, j'imagine quelque chose de très nocturne, la nuit. J'imagine des quais brumeux. Ça peut être le port du Havre, je sais pas. Il y a quelque chose de très cinématographique dans cette longue logorée verbale, dans ce long dialogue. Et voilà, c'est ça qui m'avait fait chavirer quoi, quand j'étais jeune. Alors, je ne lis pas la toute fin parce que j'ai pas envie de vous dévoiler ce que, en fait, va demander le client au dealer. Voilà. Parce que, quelque part, en fait, on va comprendre ce qu'il est venu chercher. Et ça, je vous laisse le soin de le découvrir par vous-même. De toute façon, c'est un texte très court que vous pouvez trouver partout, qui est édité aux éditions de Minuit, et qui est splendide, et que vraiment, je vous enjoins à lire. Vous allez adorer. Cette émission a été préparée par Perrine Malinge. La prise de son ainsi que le mixage ont été assurés par Maxime Goudard. Stéphane Ronxin l'a réalisée.